magazine des Nations Unies.
Nous sommes dimanche 30 juin, bonne fête de l'indépendance chez vous et bienvenue à ce magazine des Nations Unies dont voici le sommaire. Goodbye Roger Miss, fin mandat à la tête de la MONUSCO, le diplomate américain a quitté la RDC après 3 ans de service comme représentant spécial du secrétaire général de l'ONU en République démocratique du Congo. Avant de partir, il a dit un mot sur son bilan. Un tribunal spécial pour la RDC n'est pas nécessaire, propos du nouveau greffier de la Cour pénale internationale, Herman von Ebel. Il était en mission en RDC la semaine dernière. Vous allez le suivre dans ce magazine, une interview qu'il a accordée à Radio Okapi. Autre interview à suivre, c'est celle de Justin Atatla, expert du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme. Il évoque avec nous le concept torture en marge de la journée mondiale de soutien aux victimes de la torture. Voilà tout pour les titres.
Magazine des Nations Unies, actualité de la semaine.
Encore une fois, bonjour et bon dimanche chez vous. Je l'ai dit dans le sommaire, Roger Miss est arrivé à la fin de son mandat à la tête de la MONUSCO. Il a quitté la RDC depuis le jeudi dernier. Mais avant de partir, il accepte de répondre aux questions de Radio Okapi. Écoutez le diplomate américain s'exprimer sur son bilan de 3 ans aux commandes de la mission des Nations Unies pour la stabilisation de la RDC MONUSCO. C'est une interview de Kelly Kunté dans le cadre de l'émission Grand Témoin.
J'arrive à la fin de mon mandat sans avoir la paix et la sécurité durable déjà établies à l'est du pays. Mais aussi, je suis sensible qu'on a, beaucoup fait. Donc, par exemple, le Kinshasa d'aujourd'hui, du point de vue de sécurité et autres, n'est pas du tout la même ville que j'ai connue en 2006 et 2007, quand j'étais ici comme ambassadeur. Même la plupart de la région du pays, surtout la partie de l'ouest.
Mais les problèmes de sécurité se posent beaucoup plus à l'est qu'à l'ouest, monsieur le ministre.
Bien sûr, il reste encore des problèmes sérieux, difficiles, à l'Est, surtout lié aux activités des groupes armés. Malgré les problèmes et les problèmes importants qui restent pour le pays dans le domaine de sécurité, que j'ai un optimisme qu'on arrive finalement de faire quelque chose de mieux, de mettre fin à cette insécurité et de mieux réaliser la grande potentialité de ce pays.
Il faut préciser que Roger Miss est un habitué de la RDC, diplomate. Il a représenté les États-Unis, son pays à Kinshasa, dans les années 80 et 2000, avant de revenir en 2010 comme chef de la MONUSCO. Son successeur, l'Allemand Martin Kobler, occupait les fonctions de représentant spécial du secrétaire général de l'ONU en Afghanistan. Kobler prendra ses nouvelles fonctions en août prochain.
Magazine des Nations Unies, décryptage.
Le mercredi 26 juin dernier, la communauté mondiale a célébré la journée de soutien aux victimes de la torture. Qu'est-ce que la torture? Et concernant la RDC, la torture est-elle en progression ou en régression? Jean-Pierre Elali s'entretient avec Justin Atatla Ainon, coordonnateur de l'unité formation, appui institutionnel et éducation en droits de l'homme au Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme.
Julien Atatla Ainon, bonjour.
Bonjour.
Mercredi 26 juin dernier, c'était la journée internationale de soutien aux victimes de la torture. Quel est le sens et la portée de cette journée?
Cette journée a été instituée le 18 février 1998 par une résolution de l'Assemblée générale des Nations Unies, précisément la résolution 52/149. Et cette résolution fait suite à l'adoption par l'Assemblée générale des Nations Unies le 10 décembre 1984 d'une convention appelée la Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines et traitements cruels, inhumains et dégradants, laquelle convention est entrée en vigueur le 26 juin 1987. Elle a été adoptée le 10 décembre 1984 et elle est entrée en vigueur le 26 juin 1987. Et donc l'origine du 26 juin, c'est exactement parce que c'est un 26 juin que cette convention est entrée en vigueur, précisément le 26 juin 87. Et c'est pour cela que l'Assemblée générale, 11 années plus tard, donc en 1998, a décidé d'ériger le 26 juin de chaque année pour se souvenir que la torture et la pratique de la torture constituent un acte odieux qui révolte la conscience humaine et que chaque État et chaque citoyen doit travailler à combattre. Et pour avoir aussi une pensée pour les victimes. Et comme vous le savez, cette année, le message du secrétaire général des Nations Unies, ainsi que le message qui a été conjointement publié par différents experts indépendants des Nations Unies, tous ces messages-là ont porté sur la nécessité d'aider les victimes.
Puisqu'on parle de la torture, qu'est-ce que c'est la torture, Julien ? Pour les millions d'auditeurs congolais qui vous suivent pour l'instant.
La torture est définie comme étant tout acte par lequel une douleur ou des souffrances aiguës sont infligées à une personne, soit pour lui extorquer des aveux, soit pour lui extorquer des renseignements, ou encore pour punir cette personne pour des faits qu'on la soupçonne à tort ou à raison d'avoir commis.
Et cette douleur-là, elle est physique ou bien morale ?
Les deux à la fois. Elle peut être physique comme elle peut être aussi psychologique. Il y a l'élément matériel qui est la douleur qui est infligée, la souffrance qui est infligée. Il y a l'élément intentionnel qui est le souci de pouvoir extorquer des aveux ou des renseignements ou encore de punir quelqu'un pour des faits qu'on soupçonne cette personne d'avoir commis. Et il y a également la qualité de la personne qui inflige cette souffrance aiguë ou cette douleur. Ça doit nécessairement être un agent public, donc un fonctionnaire de l'État, qui directement inflige cette douleur-là, ou qui incite quelqu'un d'autre, ou donne l'ordre à quelqu'un d'autre de le faire, ou assiste de manière complice, sans réagir, à l'infliction de cette douleur-là à quelqu'un. Donc voilà les éléments principaux qu'il faut prendre en compte. Nous avons l'incrimination maintenant, parce que avec la loi qui a été adoptée, il y a des peines relativement sévères qui sont prévues pour de tels comportements.
On parlait tout à l'heure de la douleur physique pour finir, bien sûr, la torture. Est-ce qu'il y a aussi la douleur morale ? On peut avoir quelques exemples pour cela ?
Oui, les douleurs psychologiques, en fait, ce sont des méthodes qui sont employées souvent par les tortionnaires pour ne pas laisser de traces. Le fait, par exemple, de priver quelqu'un du sommeil pendant de longues heures, ou de jouer au tam-tam, ou de mettre un bruit tellement fort que la personne ne pourra pas dormir, ça fait partie des douleurs psychologiques qu'on peut infliger à quelqu'un. Le fait de lui faire porter, par exemple, un bandeau de manière prolongée pour lui fermer les yeux, la personne ne voit pas là où on l'amène, ne voit pas là où elle se trouve.
Là, c'est physique.
C'est psychologique parce que, une fois qu'on enlève, quelle est la preuve ? Parce que ce qui est physique, souvent, ça laisse des traces. Il y a différentes méthodes physiques, mais psychologiques, voilà un peu, où on menace la personne de mort et on lui montre quelqu'un qu'on est en train d'exécuter. On lui dit, voilà, si tu ne nous dis pas la vérité, voilà, comme ça tu vas finir. Tout ça, ça agit psychologiquement sur la victime de la torture.
Est-ce que, Julien, il y a une différence entre la torture tout court et les termes comme le traitement cruel, inhumain ou dégradant ?
En fait, les deux sont tellement proches et parfois tellement interchangeables que la Convention a mis les deux ensemble. On parle de la Convention contre la torture et les traitements cruels, inhumains et dégradants.
La Convention est là, c'est un peu séparé, quoi. On sépare la torture et les traitements.
Les traitements cruels, inhumains et dégradants peuvent, dans certaines circonstances, équivaloir à de la torture. Mais également, il y a les traitements cruels, inhumains et dégradants en tant que tel. Par exemple, le fait de dénuder quelqu'un en pleine rue.
Donc, c'est dégradant.
C'est dégradant. Ça, c'est un traitement dégradant. Ou lorsque, par exemple, on détient une personne, un détenu ou un prisonnier, dans des conditions vraiment infra-humaines, c'est des traitements aussi qui sont inhumains et qui sont dégradants.
Alors, le 9 juillet 2011, le président Kabila a promulgué la loi portant la criminalisation de la torture. Vous croyez que les Congolais connaissent l'existence d'une telle loi ? Sinon, que fait le gouvernement et le bureau conjoint, parce que vous êtes sur le terrain, pour la vulgariser, cette loi-là ?
Le bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme a organisé toute une série de descentes sur le terrain pour former les magistrats, les officiers de police judiciaire, OPJ, qui sont appelés au premier chef à mettre en œuvre cette loi. Nous sommes allés au Katanga, au sud Kivu, au Bas-Congo, en Équateur, au Kassai, orientale. On a fait pratiquement le tour pour pouvoir former les gens, les informer, les sensibiliser. En plus de ça, nous avons également appuyé le ministère de la Justice et des Droits Humains dans son initiative de descendre sur le terrain pour sensibiliser et former non seulement les magistrats et les OPJ, mais également les agents chargés de l'application des lois, les policiers, les militaires aussi qui ont été formés, sensibilisés.
Sur la loi ou bien c'est aussi sur les instruments juridiques internationaux ?
Essentiellement sur la loi. Mais oui. En fait, l'article 2 et l'article 4 de la Convention des Nations Unies contre la torture font obligation à chaque État parti dans la RDC de prendre toutes les mesures législatives, administratives, judiciaires qui s'imposent pour pouvoir éradiquer la torture.
Le bureau conjoint révèle que des tortures ou traitements cruels, inhumains ou dégradants sont commis en grande partie en RDC par l'armée et la police. Alors, comment les dissuadez-vous?
D'abord, nous faisons le monitoring, donc la surveillance. Et c'est lors de nos déplacements dans les locaux de visite des lieux de détention, des cachots, des sous-commissariats, des commissariats, des prisons. C'est à ces occasions-là que nous découvrons qu'il y a des victimes de torture, de traitements cruels, inhumains et dégradants. Et nous portons l'information d'abord à la connaissance de l'autorité compétente. Et ensuite, nous faisons un plaidoyer pour expliquer l'importance qu'il y a à prendre des mesures correctives. Et nous faisons également des activités de formation pour leur montrer le danger et le risque. Nous appuyons également les victimes de torture parce que, vous savez, il y a le fonds de contribution volontaire des Nations Unies pour soutenir les victimes de torture.
Nous allons y arriver.
Voilà.
Une question pratique, parce que vous êtes un homme de terrain. Quelle est la tendance de la torture, de la pratique même de la torture en République démocratique du Congo? Est-ce qu'elle est en progression ou en régression? Est-ce qu'on peut arriver à 1.0 de la torture en République démocratique du Congo, par exemple?
De plus en plus d'agents publics, de fonctionnaires, de magistrats, d'officiers de police judiciaire sont au courant de l'existence de la loi et ont même commencé déjà à l'appliquer.
Donc la torture est en régression, on peut le dire.
Par rapport à la tendance, si je compare les chiffres qui nous sont communiqués par nos différents bureaux de terrain suite au suivi régulier qui se fait sur le terrain, nous avons l'impression qu'il y a une tendance à la baisse. Ces derniers mois de l'année 2012, aux six premiers mois de cette année, on peut avoir les chiffres, je peux vous les communiquer.
Oui.
En 2012, de juillet jusqu'à décembre, nous avions un total de 365 cas de torture et de traitements cruels, inhumains et dégradants. À l'inverse, depuis janvier 2013 jusqu'à juin 2013, nous avons plutôt un total de 249. Donc la tendance est à la baisse. Mais ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est de travailler à ce qu'il n'y ait même pas un seul cas. C'est vrai, certains peuvent dire que c'est utopique, mais chaque fois qu'il y a une seule personne, un seul individu qui se retrouve victime de la torture, c'est une déshumanisation de toute l'espèce humaine, de tout le genre humain. C'est quelque chose qui est inacceptable, qui doit être combattu.
Et Julien, je vous remercie.
Merci beaucoup.
Et maintenant, l'actualité en bref. Une vingtaine de personnes victimes des mines antipersonnelles et explosifs de guerre ont reçu des kits de réinsertion socio-économique à Uvira Centre, au sud Kivu, en début de semaine. Il s'agit notamment de machines à coudre et de matériel de coiffure. C'est une œuvre de l'ONG Action du Développement Intégral et Conservation Communautaire, ADIC, et du Bureau des Actions de Développement et des Urgences, BADU. Elles ont été appuyées, ces organisations, par le Centre des Nations Unies pour la coordination des luttes anti-mines, UNMAC. Une centaine de femmes de la société civile et du secteur privé de Kinshasa ont participé mercredi dernier à une journée d'information sur le guichet unique de création d'entreprises. Objectif, vulgariser les facilités qu'il offre comme centre unique de création d'entreprises en RDC auprès de ces femmes entrepreneurs. Le guichet unique de création d'entreprises est un service public placé sous l'autorité du ministère de la Justice en partenariat avec le PNUD. Enfin, l'unité Outreach de la division de l'information publique de la MONUSCO en campagne d'information à Kinshasa sur le mandat de cette mission. Cette campagne d'un mois a démarré le jeudi 27 juin dernier. Elle va cibler environ 500 personnes, dont des étudiants, des communicateurs, des responsables de jeunes et des associations, des organisations féminines, ainsi que des élus du peuple, députés et sénateurs compris.
Magazine des Nations Unies, l'invité.
Hermann von Ebel, nouveau greffier de la Cour pénale internationale, a séjourné en RDC du 24 au 26 juin dernier. C'est lui notre invité. L'objet de sa mission était de prendre contact avec les autorités congolaises. Au sujet des relations entre la RDC et la CPI, elles sont au beau fixe, a-t-il déclaré. Le greffier Hermann von Ebel s'est aussi prononcé sur la vision qu'ont les Africains de la CPI et sur la thèse d'une mise en place d'un tribunal spécial pour la RDC. Il s'entretient avec Honoré Missenga Kalala.
Monsieur Herman von Ebel, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes greffier à la CPI il y a à peine deux mois. Quel est l'objet de votre visite en RDC Congo?
Oui, merci bien. Le but de mon visite ici à Congo est de voir l'activité de ces pays ici en Congo et aussi d'avoir des contacts avec les autorités congolaises au niveau des coopérations entre le RDC et le CPI.
Est-ce que vous avez un message particulier que vous apportez à vos interlocuteurs congolais?
Ce n'est pas un message particulier. En général, c'est une question de m'informer moi-même au niveau de coopération. C'était dans la position, heureusement, de voir que la coopération entre les autorités congolaises et le CPI est dans un très bon état. Il y a toujours des choses qui doivent être réglées parce que les affaires se déroulent et continuent de se dérouler en la Haye. Mais j'ai vu une volonté politique assez positive pour avoir une coopération très positive et c'est dans ce cadre que c'est une visite très effective et positive.
Donc votre visite n'a rien à voir avec les accusations d'agression sexuelle contre un ancien staff de la CPI en Aigle des Congo?
Non, ce n'est pas une chose qui est discutée même. C'est bien sûr, c'est une chose très grave que vous connaissez. J'ai demandé la semaine dernière d'avoir une enquête par des experts extérieurs de ces pays pour établir le fait, mais aussi d'analyser comment le CPI a contacté et assure la position et le well-being de tous les témoins. Alors c'est dans ce cadre que j'ai ordonné une autre enquête, mais ce n'est pas un élément dans notre contact avec les autorités congolaises.
Monsieur le greffier, beaucoup de dossiers congolais sont en cours à la CPI. Prenons le cas de celui de Mathieu Ngodjoulou. En décembre 2012, les juges l'ont acquitté, mais en avril 2013, le bureau de la procureure a interjeté appel. Où en est-on avec ce dossier? Est-ce que Ngodjoulou est-il libre ou se trouverait-il en ce moment?
À ce moment, il est libre. À la 20 de décembre, il a aussi fait un appel ou une requête d'asile en Pays-Bas. Dans le début, il était détenu pour pas quelques mois en conformité de procédures qui s'appliquent en Pays-Bas. Mais il est libéré en avril et à ce moment, il reste dans un hôtel à La Haye et il a le contact avec son équipe de défense pour se préparer aussi pour la procédure d'appel.
Et qu'a-t-on fait des victimes de cette affaire, Ngodjoulou?
Les victimes qui ont participé dans cette procédure continuent de suivre aussi la question d'appel, parce que la chambre d'appel peut bien sûr avoir une position différente que la chambre de première instance. Aussi, il peut continuer de participer dans les autres affaires avant le CPI.
L'autre affaire, c'est l'affaire Germain Katanga, quand le verdict?
Oui, c'était dans l'affaire de Katanga et c'était une décision par le juge que les victimes qui ont participé dans ce cas, au moment qu'il y a un cas contre les deux, peuvent continuer de suivre les procédures aussi en relation de M. Katanga lui-même.
Par rapport à cette affaire, quelle réponse les autorités néerlandaises ont-elles réservé aux témoins demandeurs d'asile?
Ça, c'est une chose qui s'occupe, bien sûr, le CPI, aussi les autorités congolaises et aussi les autorités des Pays-Bas. En principe, bien sûr, le témoin doit venir à La Haye pour faire le témoignage et ensuite, en principe, ils doivent toujours retourner dans le pays.
L'autre dossier congolais à la CPI, c'est le procès Jean-Pierre Bemba. On en est encore à l'audition des témoins des charges. Quelle sera la prochaine étape et quand?
À ce moment, le juge continue d'entendre le témoignage par les témoins qui sont présentés par la défense. Ça va continuer pour quelques mois en plus, je pense. Et ensuite, j'espère, par la fin de cette année, le juge peut finaliser l'audition et peut préparer un jugement sur ce cas. Et j'espère que ça peut être fait dans le premier demi de l'année prochaine.
Monsieur le greffier, l'Union africaine a déclaré lors de son récent sommet que la CPI applique une politique de deux poids, deux mesures, une politique sélective qui ne cible que les dirigeants africains, notamment ceux qui ne vont pas dans les intérêts des puissances occidentales. Quelle est votre réaction à cela?
Oui, bien sûr, comme représentant d'une cour, je ne suis pas inclus dans un discours politique. Je suis un représentant d'une cour indépendante à la même même fois, je dois insister aussi que les affaires que la Cour, à ce moment, est en charge d'enquêter et de faire des poursuites, sont toujours des cas qui sont ou présentés par les pays africains ou sont proposés à la Cour avec l'assistance et l'appui des personnes importantes en Afrique, comme M. Kofi Annan, ou aussi est un résultat de décisions par le Conseil de sécurité. Et bien sûr, dans les deux fois, la Libye et le Soudan, les États africains qui étaient à ce moment dans le Conseil de sécurité ont toujours voté en faveur de cette décision. Alors, les 8 cas que nous sommes en train de faire une enquête et une poursuite sont toujours des cas qui sont commencés avec l'appui des pays africains qui sont inclus dans cette position.
Vous avez évoqué l'état des relations entre la CPI et la RDC. Il y a quelque temps, il y avait quand même des nuages entre les deux partenaires à cause du dossier Bosco-Ntaganda. Maintenant que ce dossier a été transféré à l'AE, les relations se sont quelque peu détendues, j'imagine.
Oui, pour le cas de Ntaganda, c'est aussi un autre cas important pour nous. Nous avons aussi, dans ce cas, la coopération forte des autorités congolaises, aussi des autres autorités. J'espère que l'année prochaine, quand le juge va se décider sur le caractère de cette crime, que nous pouvons avoir une autre affaire à la Haye.
Dernière question, Monsieur Le Guéffier, avant votre nomination à la CPI, vous avez exercé les mêmes fonctions successivement au tribunal spécial pour la Sierra Leone et au tribunal spécial pour le Liban. Pensez-vous qu'il faille aussi, comme le réclament certaines voix, un tribunal spécial pour la RDC Congo?
Non, je ne suis pas d'opinion que ça soit nécessaire, parce que vraiment, la CPI était créée ces quelques années avec le but d'être une cour permanente pour tous les cas dans le futur en relation des crimes de guerre, crimes contre l'humanité et les crimes de génocide. Alors, il n'y a aucune raison d'avoir une autre cour. La cour spéciale pour le Sierra Leone était créée parce que les crimes sont commis avant le début de travail de CPI et le tribunal spécial pour le Liban a été créé parce que ça concerne le crime de terrorisme qui n'est pas inclus dans le mandat de ces pays.
Monsieur Herman von Ebel, merci.
Je vous en prie.
Notre nouvelle en province nous dit que le Fonds mondial va bientôt décaisser 130 millions de dollars américains pour appuyer la lutte contre le VIH-Sida en RDC. Le chargé de la RDC au Fonds mondial a annoncé mardi à Lubumbashi. C'était au cours de la conférence nationale sur les maladies sexuellement transmissibles qui s'est déroulée dans cette ville de la province du Katanga. C'est un reportage de Denise Maéo rendu par Karine Topé.
Depuis 2004, le Fonds mondial a disponibilisé à la RDC 300 millions de dollars pour la lutte contre le VIH-Sida. Et pour les 3 prochaines années, la RDC recevra 130 millions de dollars. Marc Troget, chargé de la RDC au Fonds mondial qu'il a annoncé hier, indique que les discussions sur cet argent sont en cours. Le pays pourrait bénéficier d'un montant plus grand à condition que des priorités claires sur la lutte contre le VIH-Sida soient établies. Toutefois, le Fonds mondial rassure qu'il revient à la RDC de décider de l'utilisation de ces fonds. Marc Troget a également rappelé les principes fondamentaux pour la gouvernance des projets Fonds mondial, c'est notamment la transparence à toutes les étapes du processus, de la soumission des propositions jusqu'à la mise en œuvre du projet, la représentation des acteurs non gouvernementaux dans l'exécution des projets et la participation des communautés locales. Lubumbashi, Karine Topé, Radio Okapi.
Magazine des Nations Unies. Portrait d'usine.
Je m'appelle Oscar Mercado, de nationalité péruvienne. Je suis divorcé, mais j'ai un enfant à ma charge qui a 14 ans. Vraiment, j'ai très envie de le revoir. Ici, à la MONUSCO, je m'occupe de l'unité monitoring, c'est-à-dire que nous, on fait le suivi de la presse locale et internationale journalièrement et on envoie des comptes rendus à ceux qui veulent s'inscrire dans notre liste de distribution. C'est un travail assez intéressant, ça m'a permis d'entrer en contact avec la presse congolaise et un peu plus largement, je dirais, avec la pensée du peuple congolais. Avant de venir ici, j'étais à un poste au Timor oriental pour les Nations Unies. Donc, je travaillais pour la radio des Nations Unies là-bas. Et c'est une expérience différente. Là, c'était une petite île qui avait des problèmes très, très ciblés, mais quand même qui était beaucoup plus facile à gérer que cet immense pays qui est le Congo, dans lequel j'y suis depuis bientôt 11 ans. En ce qui concerne ma formation, je suis historien, j'ai fait une maîtrise en sciences politiques et j'ai fait un DEA, qui est la préparation du doctorat en France en sciences politiques. Donc, si vous voulez, c'est dans le domaine humanistique que je me suis toujours exercé. Avant de rejoindre les Nations Unies, j'ai travaillé pour la télévision péruvienne. J'avais même ma propre mission. C'était un magazine culturel, de variété même. C'était léger. Ça a été une expérience très, très, très enrichissante. J'étais très content. Mais maintenant, j'y suis au Congo depuis déjà bientôt 11 ans. Et je veux dire que ça m'a changé la vie. Parce que le contact avec une autre culture, l'expérience aussi de voir un pays se redresser de tous les problèmes dont il a souffert et qui continue encore à souffrir, ça c'est une expérience qu'on n'a pas tous les jours l'opportunité de voir. Moi ça m'a marqué, j'ai beaucoup appris de l'humilité des Congolais, j'ai beaucoup appris de la solidarité africaine. Quand j'ai le temps, j'écoute de la musique congolaise. Mes loisirs sont surtout la lecture et les films. Je connais quelques chansons que vous connaissez aussi et j'espère bientôt les chanter sur place. L'une d'elles c'est par exemple Guantanamera, Wahira Guantanamera, Aino Mas, Guantanamera, Wahira Guantanamera. C'est ça, on dit quoi? On va gâter le coin. Voilà. Pour ce qui est de l'avenir, moi, je pense rentrer me reposer parce que j'ai quand même quelques problèmes de santé. Je me reposerai quelques mois. Après, je veux reprendre encore parce que je suis un battant. Je veux reprendre encore, je pense, dans le secteur privé de mon pays. Je pense qu'il y aura de fortes possibilités que je retourne en Afrique pour travailler avec des boîtes latino-américaines qui ont des relations avec l'Afrique, notamment le Brésil, car j'ai une expérience riche et c'est rare de rencontrer des Péruviens qui ont eu tant d'expérience ici en Afrique que moi. Voilà, je vous souhaite le meilleur pour le pays, le meilleur pour la Radio Capi. J'ai eu le grand plaisir de travailler avec Jean-Pierre et avec les collègues, dont je suis reconnaissant pour son soutien à tout moment. Je dis simplement que Dieu vous bénisse à tous.
Magazine des Nations Unies, de Sion aux Nations Unies.
Bonjour Radio Capi et le magazine des Nations Unies. Je suis Jean-Pierre Moninga Matesso. C'est l'autre des échos en provenance de Lubumbashi, au Katanga. Plusieurs réfugiés angolais, candidats au rapatriement volontaire, avaient vendu leurs biens et certains, même leurs maisons, en prévision de la clause de cessation de leur statut de réfugié, entrée en vigueur le 30 juin 2012. Aujourd'hui, ces Angolais ne savent à quel fin se vouer. Ils ne sont ni réfugiés, ni résidents. À quand leur appartiennent ? Question adressée au HR. Merci.
Merci Jean-Pierre Matesso. Nous avons contacté pour vous Gert Westerveen. Il est assistant du représentant régional du HCR chargé de la protection. Écoutez sa réponse.
Effectivement, le 30 juin 2012, le mouvement de rapatriement a cessé. Ça a été fait à la demande du gouvernement angolais. L'HR était à ce moment prêt de continuer tous les convois de la RDC vers l'Angola, mais c'est le gouvernement angolais qui a demandé de cesser ce mouvement. Depuis lors, on a eu des contacts avec le gouvernement angolais à plusieurs reprises au plus haut niveau, en demandant qu'ils nous fassent savoir leur plan pour recommencer le rapatriement, parce qu'il y a encore 23 000 ex-réfugiés angolais qui veulent encore retourner chez eux. Malheureusement, jusqu'à ce moment, le gouvernement angolais n'a pas communiqué comment il veut reprendre ce mouvement de rapatriement. Malgré tous nos efforts d'obtenir une réponse, donc nous sommes tous à l'attente d'une initiative du gouvernement angolais pour nous dire comment et quand on peut reprendre le rapatriement.
Le magazine des Nations Unies. Tout sur les faits saillants des activités des agences du système des Nations Unies en RDC. Chaque dimanche de 10h à 10h30, heure de Kinshasa, sur Radio Capi.
Notez dans vos carnets les rendez-vous de la semaine qui commence ce lundi 1er juillet, c'est la journée internationale des coopératives. D'autres dates à retenir, le 3 et le 4 juillet, l'unité Outreach de la division de l'information publique de la MONUSCO va poursuivre sa campagne sur le mandat de la mission et la résolution 2098. Le 3, ce sera à Mongafula et le 4, dans la commune de Limba. C'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. C'était un plaisir pour moi, Mila Kinguini, de vous la présenter avec l'assistance technique du côté de la régie d'Héritier Sidiakala. Elle a été coordonnée par Jean-Pierre Elali. Honoré Missenga était au portage et Nicole Ngaka à la supervision. Vous pouvez réécouter cette émission à tout moment sur notre site www.radiocapi.net. Vous avez une préoccupation par rapport à cette émission, contactez-nous au 082 30 76 630. Écrivez-nous aussi à notre adresse email maguen@radiocapi.net ou tout simplement laissez votre question sous forme de commentaire sur notre site internet en dessous de l'émission. À dimanche prochain et je vous souhaite une excellente journée dominicale à tous.